Bonjour, ici Louis Simon. Je vous invite à visiter mon site web louissimon.com pour découvrir plus d'informations sur la bécasse, la chasse et les chiens. Aujourd'hui, le 14 septembre 2016, je rencontre mon bon ami Gabriel Bédard, bécassier et armurier, qui nous résume ce qu'il a appris au cours de sa vie à propos des fusils de chasse au bois et de leurs munitions. Dis-moi ça, tu commences par nous parler de ton expérience par rapport aux fusils puis aux tirs de chasse, si vous vous intéressez.
Grosse question. Je peux dire mes découvertes que j'ai faites, c'est d'un, c'est pas pas en tout ce qu'on pense là-dedans, là, il y a une recherche à faire individuelle, et puis on vient qu'on trouve le poids du fusil idéal, puis la dimension du fusil, la courbure de la crosse, toutes ces choses-là qui sont des facteurs très importants dont personne ne s'occupe. Donc, il y a un fusil, il doit balancer à partir de la pine en avant, mais des fois, il est mieux d'être un petit peu plus canon pesant. C'est plus pratique, c'est plus rapide. Moi, personnellement, mon goût à moi, j'ai trouvé que mon fusil idéal, c'était 6 livres. Moins de 6 livres, c'est trop léger, c'est brusque. Puis plus de 6 livres, c'est dur à manœuvrer, c'est pesant. Donc, pour moi, personnellement, le poids idéal, c'était 6 livres. C'était un canon, un set de canon de 26 pouces, comme je disais tantôt, un peu canon pesant, mozole pesant. Donc ça, c'était la recette, mais c'est surtout aussi la dimension de la crosse. C'est ça que Paul Brousseau nous a réveillé. Lui, il nous a réveillé à ça, à cette chose-là. Puis à partir de ça, j'ai fait beaucoup de recherches, puis là, j'ai compris ce qui se passait. Puis il faut conformer le fusil à la personne. Est-ce que ça répond un peu à
venir? Oui, ça répond un peu à ma question. Dans le fond, ce qu'on observait dans le temps, c'est que la plupart des fusils nord-américains étaient faits pour des gens, je pense, de 5 et 10 droitiers.
Oui, même 6 pieds.
6 pieds. Alors, les crosses sont souvent un peu trop longues.
Ouais, sont trop longues, trop droites. Aucun, ce qu'on appelle le mot avantage pour.
Ouais.
Le caste, ce que tu veux, dans le mot anglais, l'avantage pour. Ils en ont pratiquement pas.
Oui.
Puis le tireur américain moyen, il tire pas au fusil, il vise avec son fusil. Tandis que le tireur anglais pointe son fusil. C'est toute la différence.
Oui. La technique Churchill, alors ça te prend un fusil c'est ça, bien
c'est
adapté.
C'est une technique. Churchill est un gars qui a travaillé très fort là-dessus. Puis les fusils anglais, ben, c'était des fusils autour de 6 livres. Un petit peu... canon pesant, ce que j'ai lu, là, il n'était pas sur le point, on dit toujours sur la pine là, de la penture là, du fusil, mais un petit peu en retrait de ça, ça fait mieux encore.
Tu dis un petit peu en avant?
Non, en arrière, pour en avoir arrière. Du poids en avant. OK?
Oui, OK.
Hein, pour le poids de balance, pour que soyez en avant, là,
oui,
okay. Faut que le point soit un petit peu en arrière. Alors, pas gros, un demi-pouce.
Parce que ça appine, moi, ce que j'ai observé, c'est que ça fait un fusil qui est nerveux en tabarouette. Là. Le devant du canon se promène pas mal.
Ça, c'est quand il est trop léger.
Il est trop léger, oui.
C'est ça.
Mais trop léger du devant aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. Pour ça, je te dis, il faut que le soit allégir la crosse, vider la crosse, pour que changer le point de gravité.
Ouais.
Pour emmener du poids vers l'avant.
Puis comment tu détermines, comment tu fais pour savoir si la conformation de la crosse est correcte?
C'est assez facile. Jim O'Connor avait donné un article, il avait expliqué ça. Anciennement, on avait des clôtures sur les fermes, il n'y en a plus maintenant, là. Mais tu prends un grand papier, puis tu pointes ton fusil vers la gauche, puis il y a quelqu'un qui dit « shoot ». En faisant ça, tu t'en vas sur la feuille de papier pour aller au centre. Tu fais ça au moins 5 fois. 5 fois de l'autre côté. Puis là, après ça, tu vas voir où il y a le plus grand trou dans ta feuille. Puis si le trou est à gauche, ben là, faut que tu corriges ta croche pour l'amener au centre. S'il est au centre, c'est parfait, tu touches à rien, là.
Okay.
Puis si tu veux l'avoir un petit peu plus haut, ben tu vas remonter ta pente de croche pour tirer un petit peu plus haut. C'est tout des choix, parce qu'on parle souvent de l'oiseau levant. Donc, si notre fusil tire un pied ou deux plus haut, ben ça donne un avantage, un lead, là, une avance.
Autrement dit, ton centre d'impact doit être un petit peu plus haut que...
Sur les oiseaux levants. C'est sûr, je chasse à canard, c'est une autre affaire.
Non, mais pour la chasse au bois, là.
La chasse au bois, bécasse et perdrix, il doit être un petit peu plus haut pour te permettre de donner une avance automatique.
OK. Puis on tire plusieurs cartouches. Dans le fond, c'est pour enlever les erreurs. Si on tirait juste un coup ou deux, mais là, si on s'est trompé un petit peu dans notre façon d'épauler...
Ouais, c'est parce que les gens, ils visent puis corrigent. On demande juste, nous autres, d'arriver puis d'aller pointer sur la feuille.
Ouais.
Mais là, faut que tu trouves le temps que le gars arrête de viser.
Ouais.
Faut que tu trouves ça. Il y a une recherche à faire. Ça peut prendre deux, trois feuilles, là, avant qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils visent.
Oui, puis ce que je comprends, c'est important que ce soit quelqu'un d'autre qui donne le signal de
départ,
sans que ça soit inattendu. Vise plus. Puis...
Oui, il faut que ça soit un inattendu.
Oui.
Okay. Pas trop qu'il se prépare.
OK. Puis qu'est-ce qu'on. En termes de. Continuons de parler de crosse un peu. Pogné pistolet, pogné semi-pistolet, pogné anglaise.
Bon, ça, là, c'est simple. Si tu as un fusil anglais à deux détentes, c'est sûr que ça prend une crosse anglaise pour faire glisser ta main, OK?
OK.
Tandis que la poignée de pistolet, la main ne peut pas bouger. Fait que si tu as un mono-détente, c'est sûr qu'une crosse pistolet peut bien aller.
Oui.
Mais là aussi, l'avantage qu'on ne pense pas souvent, c'est qu'en tirant une crosse anglaise, ton poignet est cassé un peu. Fait que quand tu tires, il y a une tendance à faire lever ton fusil plus vite.
Ah oui?
Oui. C'est important, ça. Oui. Puis c'est là, les Anglais, c'est ça qu'ils avaient trouvé. En plus de glisser d'une détente à l'autre, ça leur permettait de tirer plus haut un peu.
OK. Oui. Puis la tension sur l'index, il me semble qu'il y avait quelque chose qui disait que, étant donné qu'on est comme en tension, ça fait en sorte que le coup part plus facilement alors que le fusil touche l'épaule.
Il faut se discipliner à toucher la détente avec la jointure, là, ici, là. Pas avec le gras du doigt.
Ah, ouais.
Parce que le gras du doigt, il est mou. Puis, il veut dire, il freine ton action. Tandis que là, c'est l'os.
OK.
Aussitôt que tu dis oui, pouf, il est tout de suite là, là.
OK.
Ça marche-tu? Tu me fais-tu comprendre?
Oui, mais le coup, c'est l'index qui délibérément pèse sur la détente.
Oui.
Ah, oui?
Oui. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de retard. Si tu es sur du grand, tu as du retard.
Un petit peu de retard.
Tu vois, là, tu sais passer, là.
Le souvenir que j'avais, c'est qu'avec la technique anglaise, la technique Churchill, quand tu épaules, tu as le doigt sur la détente, il faut que la détente soit très sharp, là. Et dès que le fusil touche l'épaule, la tension qu'on a dans le doigt fait en sorte que le coup part seul.
Ouais, c'est pas tout à fait ça ce qui se passe. T'as un peu raison, là. C'est que si on parle de la technique Churchill, OK?
Ouais.
Cette technique-là demande que quand tu laisses ton fusil, il vient à la joue, pas à l'épaule.
Oui.
Mais en reculant ton fusil à l'épaule, tu pêches à la détente.
Oui, mais à ce moment-là, c'est pas l'index qui délibérément pèse
dessus. Non, mais il faut encore là, faut que tu sois là, parce que sans ça, c'est mou puis tu perds du retard.
Oui, oui, oui.
Tu sais,
ouais.
Ça le fait, mais en retard.
OK.
C'est des petits détails, là. Oh, c'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre à mettre sa main comme il faut, puis de monter le fusil à la joue, puis reculer.
Oui.
Pas à l'épaule, puis viser.
Oui. Ça marche-tu? Pas redescendre la joue après.
Oui.
OK.
Parce que là, tu vises.
OK.
Tandis que l'autre, tu mets ton fusil à la joue, il est en ligne avec tes canons. Donc, ta vue est concentrée sur l'oiseau.
Ouais.
Tu vois pas tes canons.
Oui, on disait, si tu vois que tes canons shake, ça veut dire que tu regardes pas l'oiseau.
Oui. Un peu.
C'est une façon de le voir.
Oui.
Puis, si je veux apprendre à tirer au fusil, moi, dans le temps, j'étais allé voir Paul Brousseau, tu m'avais coaché aussi. Qu'est-ce que je fais maintenant pour apprendre à tirer au fusil, en tir de chasse?
C'est une bonne question. C'est qu'il faut te prendre des livres, puis tu lis, puis tu t'apprends tout seul.
Il n'y a pas grand-chose.
L'auto-apprentissage. Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont poursuivi ça. Ils n'ont pas compris ça, tu sais.
Ouais.
C'est pas compris. Nous, on a un problème, c'est les Canadiens, en tout cas, là, les Québécois, on a le syndrome américain, qui est le fusil le plus gros, le plus pesant, le plus lourd, le plus fort, le plus... On a ce syndrome-là, on est mal parti avec ça. Tandis que les Anglais avaient, c'était des 12, mais il y avait des petites charges 2 pouces et demi.
Ouais.
C'était quasiment des charges de 20.
7/8 d'once.
Ben oui, c'est ça. Donc, nous, on prend le 20 pour compenser ça, mais c'est sûr que si on était capable d'avoir des cartouches équivalentes au 20 dans un 12... Ton patron est quand même mieux distribué avec un 12. Mais à ce temps, avec les collets modernes et tous ces avantages-là, c'est plus ou moins vrai. Là, okay?
Okay.
La différence est dans l'ordre de peut-être de 0,5 %. Là.
marginal.
Il ne faut pas trop se casser la tête avec ça.
Puis, qu'est-ce qui... En termes de mécanisme, juxtaposé, superposé, semi-automatique, pompe...
Ça, oui. Un pompe, c'est un très bon fusil, mais c'est plus lent. Un deuxième coup. Si tu penses qu'il faut en avoir un. OK? Juxtaposé, fusil semi-automatique, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un fusil dangereux en forêt. Parce qu'il y a trois coups, puis il est toujours chargé, puis toi, tu pars pour aller chercher ta bécasse, puis tu parles aux chiens, puis tu viens distrait, puis t'as trois coups, là, puis t'es chargé encore, puis t'as pas le mis de bord, hein, le camp de sécurité. Puis, ouais. Je trouvais que c'était un petit peu insécure, puis après ça, c'est pas orthodoxe, c'est pas beau. OK? C'est pas un beau fusil, là. Mais si tu cherches ta cadavre, c'est ça.
Ouais.
Il faut trop s'entendre. Mais si tu parles de bécasse, perdrix, jupier terrestre, là, c'est un superposé, si tu es assez moderne, mais juxtaposé, si tu comprends ce que c'est un juxtaposé, c'est encore un des meilleurs.
Pourquoi?
À cause de la main qui est tellement proche des canons.
Okay.
La main de fût.
Ouais.
Ça prend, il faut pas avoir un gros fût, il faut avoir un petit fût de queue de ronde, là,
ouais.
Pour que tes doigts soient autour du canon, pour que ta vue instantanément passe entre les doigts.
Okay.
Tu passes entre tes doigts.
Puis, ce dont je me rappelle, c'est que ta main est pratiquement en avant du fût. Là.
Elle est en avant. C'est oui,
juste
oui.
L'arrière de la main qui touche non. Un peu au fût.
C'est là. Pour ça que les Anglais tiraient tout avec des gants de la main gauche, parce que le canon devient chaud.
Oui.
OK?
Quand ils font des tirs de barrage au faisan. Ouais,
non, mais je veux dire quand même qu'ils pratiquent, puis ils tirent d'un tour de coup de suite. Donc, ouais. Le canon devient chaud, fait qu'ils se brûlent les mains, ils ont toujours eu un gant.
Okay.
Mais il reste que c'est ça l'avantage du juxtaposé. C'est d'avoir les doigts chaque bord du canon, puis de faire un trottoir, un guide.
Ça fait des
quand
yeux,
toi, tu lèves ton fusil, tu te la joues, tu regardes ton oiseau entre tes doigts.
Okay.
C'est sûr que le canon est là.
Alors, tu n'as pas les doigts repliés dessus, tu as les doigts...
Non, il faut qu'ils soient levés un peu là, ouais, pour ouais. Passer ta vue, là, OK?
Tes doigts verticales,
ouais.
Chaque bord du canon.
En tout cas, du moins, même si tu les prends pas, il faut qu'ils soient plus haut que le canon. Là.
Okay.
Puis toi, quand tu t'emmènes ça à la joue... Tu regardes entre tes doigts, hein, le gibier, puis tu le repères, OK?
OK.
C'est ça qui est si vite.
Ouais, 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 ouais. OK.
C'est ça qui accélère tellement ton affaire. C'est pour ça qu'on vient que ça a quasiment pas de bon sens. Moi, j'étais rendu que les bécasses à 15 verres étaient tombées. Ben, 15 verres, 13 verres. Mon coup moyen, c'était 13 verres. T'es rendu tellement vite là, qu'il n'y avait plus le temps de...
Ça, c'est la distance à laquelle la bécasse est tombée.
Est tombée.
Ça veut dire que tu l'as tiré une verge ou deux avant ça.
Oui, 12 verges, là. Hein?
Oui.
C'est vrai que, tu sais, c'est 33 pieds, là. Ouais. Mettons qu'elle était déjà à 20 pieds de moi, 25 pieds. Ça veut dire qu'elle a fait 10 pieds, hein?
Oui. Le choke, à cette heure.
Bon, c'est sûr que... Il y a deux grandes écoles, là. Il y a l'école orthodoxe américaine, donc il faut tailler un choke assez fort pour tuer comme il faut. Puis, eux autres, ils préfèrent avoir un choke serré puis des grosses billes. Tu sais, comme pour casser la bécasse, ça voudrait prendre du 7,5. Puis, un choke, une pauvre cylinder. Pour pas trop la débâtir. Hein.
Okay.
Parce que quand t'es rendu, tu viens, tu tires vite, ta bécasse, t'as pulvérise. Hein. Puis, la perdrait aussi, là. Donc, les Européens, eux autres, ils ont une autre école. C'est le canon rayé pour faire disperser les plombs pour que quand à la distance que tu tires, 10, 12 verges, 13 verges, le patron est quand même assez ouvert que tu ne brises pas ton gibier.
Comment je détermine mon patron? Le patron idéal dans nos
conditions? Le patron idéal, c'est à tirer des coups de feu, hein? C'est à tirer sur du papier.
Mais encore. Les Américains font un rond, puis il faut qu'ils comptent un pourcentage de plomb.
On peut faire ça. Moi, ce que je disais, c'était la distance moyenne que tu tires ton gibier. C'était, moi, c'était 13 verges, là, que j'avais fait compter pendant, je ne sais pas, mais 100 bécasses.
Okay.
Puis là, quand je patronnais, puis je travaillais mon fusil, c'était à 13 verges.
Oui.
Parce que c'est là que je voulais avoir mon efficacité.
Oui.
Donc, mon canon rayé, les premiers rayés qu'on a eus, qui étaient à 42 pouces, à 13 verges, j'étais encore trop concentré.
Ouais.
Fait que là, c'est là qu'un jour, je me suis acheté un canon de tir au slug. 24 pouces, 23 pouces de rayure, là, de okay. Pont. Puis là, je me suis pris un Baïkal, j'ai enlevé le canon de droite, puis j'ai mis un canon comme ce canon-là à place. Là, j'ai commencé. Là, c'était le miracle d'Akasso-Bécasse.
Puis ce que je recherche, dans le fond, c'est d'avoir un ou deux plombs à peu près par unité de surface de
bécasse. 3 à 4.
Tant que ça?
Ouais.
Pour la bécasse?
Ouais. Puis encore là... Je pourrais te le laisser, je vais aller chercher quelque chose, je vais te montrer ça, prends-moi un peu. Pour prouver ce que tu me dis depuis tantôt, si je te parle, c'est que moi, j'étais maniaque un peu. Je suis allé voir mon copain vétérinaire, puis j'ai pris des bécasses que j'avais tuées, puis on a fait une radiographie. Puis là, j'ai regardé le nombre de plombs qu'il y avait dedans. Regarde ça.
Ouais.
Ça, c'était fait avec un improve cylinder, puis du neuf.
Puis l'auto, facilement.
Ben, ça n'a pas de bon sens, hein?
C'était facilement une quinzaine de plombs.
Non, même, oui, regarde. Regarde le site, là. T'en as un paquet, là.
Ah, oui. T'as 15
ans. Donc, c'est là que j'ai commencé à dire, mais ça n'a pas de bon sens, mon affaire. Ouais. C'est fou, là.
Trop serré.
Ben oui. L'improve cylinder.
Ouais. Ouais.
Fait que là, j'ai commencé à croquer des canons rayés. Okay. Puis est venu un Français ici un jour. Monsieur, je ne me souviens plus de son nom, il faudrait que je cherche. Puis il est venu me montrer un bébé breton.
Ouais.
Puis là, ben, son bébé breton, il me l'a laissé. Puis il dit, chassez avec cet automne, on s'en reparlera. C'était merveilleux, là. J'ai découvert un nouveau monde, là. Maintenant, le fusil, c'est difficile à tirer.
Mais ça, c'était un canon rayé. C'était quoi le vrillage?
42 pouces.
Un tour au 42 pouces.
Oui.
Ça, c'était...
C'était trop long encore. Ça n'ouvrait pas le cachet. C'était mieux que ça, mais encore trop.
OK.
Ça fait que là, c'est là que j'ai pris l'affaire de m'affermir un canon de slug. Puis je l'ai monté sur un Baïkal. Puis là, j'ai fait commencer à faire des charges d'un 12. Puis là, j'ai commencé à faire des petites charges de 7 huitièmes d'11, puis là, dans le 12. Puis là, j'ai pas fait de radiographie, mais sur les patrons, j'avais... 5-6 plombs par oiseau, ce qui était la tête inclus tout.
Par bécasse, OK.
Par bécasse.
Maintenant, ça te donnait un patron d'à peu près quelle grandeur? Patron
efficace?
C'était
près de 4 pieds.
48 pouces de diamètre.
Ah oui, c'était grand.
À 12 verges, à peu
13
près.
Verges. 13 verges. Moi, c'est tout, c'était 13 verges.
OK.
Donc, ça, c'était une recherche, en réalité, là. Oui, oui,
oui.
Donc, là, après ça, je me suis fait faire un fusil en Europe, un 20, un calibre 20 superposé. Puis là, ce fusil-là, quand il est arrivé ici, il y avait un canon rayé. Il m'avait mis un canon rayé, mais c'était un 42 pouces. C'était bon, c'était pas beaucoup mieux. Maintenant, c'était un fusil qui tirait mieux que le bébé breton.
Ouais.
C'était plus proportionné, puis c'était plus balancé, tout ça. Puis...
Parce que le bébé breton était trop léger. Hein. C'était
trop léger, c'est ça, léger. C'est ça. Puis mal fait mécaniquement. Je veux dire, la barure, c'était dangereux. Là. On était mal pris avec, là.
Ouais.
En tout cas, moi, les Français ont toujours été les premiers dans des designs terribles, mais pas finis. Ils finissent jamais leur job. Exemple, la Citroën, hein, qui était probablement le meilleur char qui était sorti de toute la cour automobile, mais il n'était pas fini.
Ouais.
Il était plein de défauts, là. Donc, ce fusil-là, je l'ai aimé. Ce que j'ai fait, j'ai réussi à contacter en France un monsieur De Bruyne, qui, lui, avait une machine pour rayer des canons. Faites là, j'ai fait un voyage en France, je suis parti avec deux canons, mais je les ai fait rayer. Quand je suis revenu ici, je me suis fait un set de canons dans mon vin, rayé à 24 pouces, 42 pouces en haut, 36 pouces, je pense.
Un tour au 24 pouces, un tour au 42 pouces. Ouais. Premier coup, très dispersé, deuxième coup,
un
presque
moins.
Un cylindre.
Pour la bécasse, hein?
Deuxième coup, ça donnait presque un cylindre, un petit peu
plus ouvert. Oui, c'est ça. Cylindre. Ouais, plus ouvert un peu. J'arrête toutes les feuilles de patron de tout ça en bas, là.
OK.
Donc, là, j'ai un peu découvert le monde. Maintenant, il y a eu une chose qui est arrivée. Là, j'étais pas quand même satisfait parce que la crosse de mon fusil était pas à point. Elle était un petit peu trop pesante. Elle avait plein de défauts. Quand je suis retourné l'année suivante chez M. De Bruyne, il y avait une machine pour copier des crosses, lui, en plus. Fait que là, j'ai pris ma crosse que j'avais emmenée, puis il m'en a copié une sur ma crosse, mais il m'a laissé plus de bois. Okay. Puis là, il l'a évidé.
Okay.
Là, je suis arrivé avec ça chez nous. Puis là, j'ai ajusté ça, puis travail. Je suis venu qu'elle était tellement courbée que le monde pensait que j'étais infirme. Là.
Ouais.
Mais là, ça tirait. Là, les bécasses, ils tombaient. Hein. Puis ça a fait l'avantage. Moi, je trouve que c'est un avantage. C'est que je me suis aperçu que le nombre de bécasses n'était plus important. Ça m'a fait découvrir ça. Ce qui était important, c'était tout le plaisir de cette partie-là.
Ouais.
Tu sais, de retrouver l'oiseau, puis faire ça. J'en tuais une ou deux par une partie de charge, j'étais bien content. J'étais correct.
Puis les charges de cartouches, tu as commencé à en parler un petit peu. T'as expérimenté, bon, ou je pense avec du plomb?
J'ai expérimenté beaucoup. J'ai fait des cartouches avec J'ai commencé par des partitions dans les plombs là, pour faire ouvrir.
Oui, des croisillons.
Ça, ça a été pas mal. Denis Lefrançois Québec nous a fait du plomb plat.
Oui.
Ça, ça a été un avantage, mais pas ce que c'est qu'on aurait voulu pour la Bécasse. C'était pas, ça ouvrait pas nécessairement le patron, mais par contre, ça allait sur le camp, qu'on dit, là, puis ça pénétrait, c'était terrible. Mais c'était pas ça que j'ai eu après ça du 9, j'ai réussi à me trouver du 10. Puis j'ai eu un gars de Québec, un ami de Québec, qui est arrivé un jour avec une boîte de 11. Là, ça a été la découverte pour la Bécasse, c'était le plomb. Mais quand j'en parle aux gens, là, les gros bécassiers du Québec, ils rient de moi, là, ils comprennent pas ce que je veux dire.
Ouais.
Puis un autre exemple qui était comique, ces charges-là, tout ça, là, j'allais casser aux États-Unis, la caille, avec des pointeurs anglais, puis tout le kit, là. Puis là, je faisais des dos tout le temps, je faisais des dos continuellement. Puis là, le guide, il m'appelait le Murderer from Québec. Puis là, j'y avais beau, il montrait mon canon, il dit, regarde, j'ai des canons rayés, c'est pour ça que c'est facile de rayer. Là, il riait, screwing barrel, il riait de lui, il a vraiment rien compris, il comprenait rien à ça, là. C'était vraiment spécial, hein.
Ouais. Alors, dans le fond, ce qui semble être l'idéal, c'est du très petit plomb, du numéro 11, des charges pas trop grosses.
Le plus légère possible.
Ça te permet d'avoir beaucoup de plomb dans la charge, pas beaucoup de recul. Ta dispersion, t'as un patron très grand.
Très belle.
Mais
le patron est égal.
Mais qui est plein, beau, pas de trou.
C'est beau, là. Tu sais, ouais. Tes plombs sont là partout, au pouce carré, là, c'est partout pareil.
Oui, puis sur la bécasse, c'est sûr, c'est merveilleux. La perdrix,
c'est numéro 11. Ça tombe, il vient de la tête pleine, hein?
Ben oui.
La tête d'une perdrix, c'est juste un petit peu moins que. C'est un petit peu moins que une bécasse, quand même, hein? La tête, là, c'est presque la grosseur d'une bécasse.
C'est vrai, hein? C'est pas gros, hein?
Avec, tu sais, c'est la perdrix, c'est celle que j'ai tirée avec du 11, puis ça tombe bien, elle est pouf à terre, c'était fini, là, même pas de battement d'aile, on disait, là.
Moi, c'est le souvenir, j'ai fait quelques perdrix, même avec du 11 aussi, puis ça tombe mort.
C'est magique, hein?
Il tombe mort.
C'est magique. Ouais. Donc, c'est ça que. Attends, toi. C'est ça que nous. J'appelle le syndrome américain. Le taureau est le plus gros et le plus fort. Là. On commence à être du plomb. C'est la même chose que la chasse au canard. Le meilleur cartouche de chasse au canard que j'ai trouvé dans toute ma vie, dans le temps qu'on avait du plomb, là, c'était un 11-3-8 de 5. Ça, c'était la cartouche merveilleuse. Mais ça, pour les Américains, c'est en bas de 4, là, il n'était pas question. Là.
Il est trop petit.
Ouais.
Il y a une question à me poser. J'ai pas refait de bécassine depuis l'obligation de l'acier, de la grenaille non toxique. Tabarnouche, on fait quoi pour chasser la bécassine maintenant?
Ah,
c'est du 6 d'acier?
On chasse un peu illégal.
Ouais.
Moi, c'est sur mon point de vue, là. C'est parce que c'est des lois qui sont faites. C'est pas. Richard Couture a démontré, je sais pas combien de fois, que les plombs, les billes de plomb, là. Nous autres, dans le fleuve Saint-Laurent, puis site partout, la sorte de sol qu'on a, ça s'enquisse dans la vase, puis il n'y a plus aucun danger. Je pense qu'il y a plus de danger, c'est ça qu'on s'aperçoit, là, les sauvageniers, puis Saint-Lac-Saint-Jean, là, ils s'aperçoivent de ça. Là. On a plus de danger avec les bourres. Les vaches mangent les bourres, puis sont malades.
Ah ouais.
Oui. Fait que là, ils demandent aux compagnies de faire des bourres au fur et à mesure pour les retrouver facilement, les ramasser.
Hein?
Ben oui, ben après la chasse, on fait le tour pour ramasser des bourres.
Pour faire des bourres qui goûtent mauvais pour les vaches?
Ben non, mais pas les types, sans ça, ils mangent ça à travers le chaud. Okay. Puis là, ils sont malades, hein?
Okay.
Ils bloquent, puis ils jambent, puis c'est tout une histoire, là. Ça fait qu'ils essaient d'y ramasser, mais on les voit pas, hein? Fait que là, c'est une grosse demande cette année, là, aux compagnies de munitions, de faire des bourres fluo pour la chasse au chaud, que c'est plus important que les billes d'acier.
Puis quoi d'autre sur le tir de chasse, le fusil de chasse aux oiseaux terrestres, les cartouches de chasse aux oiseaux terrestres? Ouais. Y a-t-il d'autres choses qui est important de savoir?
Le chien.
C'est un autre département.
Non, oui. Non, mais ce qui est important de savoir, c'est ça. Les gros facteurs importants, c'est le poids du fusil, ça c'est important. La crosse, c'est la game est dans la crosse. Puis là, après ça, tu raffines avec la qualité des plombs, avec la qualité de la charge, avec des choses là. Mais les outils principaux, là, c'est la crosse, c'est ça, là. Sans ça, tu n'en sors pas.
OK, puis avec quand la saison avance,
les bécasses. Ben là, moi, c'est ça, j'étais maniaque pas mal, là. Aussitôt que vers la fin d'octobre, début novembre, moi ici, il y avait beaucoup moins de bécasses. Dans ma région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, les bécasses étaient passées. Puis, mais là, je tombais dans la perdrix. Là, je prenais des canons. Là, je prenais mon premier canon que j'avais eu, qui était rayé dans le bas à 42 pouces, puis une pauvre cylindre en haut.
OK.
Puis ça, je pour la perdrix, j'avais du fun. Puis là, je suis venu que j'ai fait un canon, j'ai mis des chocs rayés vissés. Puis là, ben, de temps en temps, quand on allait à la perdrix branchée, ben, je mettais un vissé full choc en haut. Okay. Les perdrix branchées, mais je n'étais pas vraiment un amateur de ça.
Puis tes cartouches à ce moment-là?
Moi, c'est 7,5, là, c'était pour la perdrix. Dans le bois, l'automne, là, un coup que la neige commençait, ça, c'est 7,5.
7,5, une once?
Maximum. Maximum. Je n'ai jamais déposé ça. Ce qu'un once, tu pas, là, tu t'en sors pas.
Puis la vitesse des charges?
Ah! Moi, là, c'est tu sais, là, on parle de cartouche aujourd'hui de 1400 pieds à seconde, tout ce coup de l'autre. Moi, là, une cartouche qui fait 1000 pieds à seconde, là, ça tue à la distance possible de ces gibiers-là. Une perdrix, là, ça se tire pas à 40 verges. Ça se tire à 25, 30 verges, 22 verges, 25 verges, 30 verges. On fait des cartouches pour tirer à 50 verges.
Ouais.
Donc, on perd notre temps, là. On gaspille de l'énergie, on gaspille de la puissance, on gaspille tout. Hein.
Ça augmente le recul aussi un peu.
En plus. Okay. C'est plus sévère. Une chose que je dirais pour les crosses, là, c'est assez important. Moi, j'en ai ajusté beaucoup, là. Puis, un personnage à qui font faire attention beaucoup, c'est aux femmes. Parce qu'ils ont ce qu'on n'a pas, des seins. Puis là, la crosse, ça le fait mal. C'est pour ça que les femmes n'aiment pas tirer. Donc, là, à ta crosse, au pad, là, tu lui donnes un angle de presque 10 degrés.
Puis faire pencher le pad.
Oui, pour que ça allait plutôt vers le dessous du bras que le côté du sein.
Okay.
Puis ça, les femmes, ils aimaient bien gros pour ça. Parce que là, ils se faisaient plus mal. Hein.
Ouais, comme
si tu te fais mal, tu n'aimes pas ça. Hein.
Ah, c'est une torsion de crosse, finalement.
Oui, oui. Le bas de la pointe de la crosse, là, faut que tu le fasses tourner à droite ou à gauche. Là.
Vers l'extérieur du corps.
Oui, pour qu'aller vers le dessous du bras.
Oui.
Okay, pour permettre à dégager la partie sensible du sein.
Ouais.
Parce que ça fait mal. Quand tu sors de là, il y avait une femme, là, elle venait tirer, elle m'avait montré ça après, le sein des plaques grosses, de même bleu. J'aurais pas aimé ça, mais si j'avais été à sa place, j'aurais détesté ça, j'aurais dit c'est pas plaisant.
Imagine.
Fait qu'elle, j'avais ajouté une crosse, puis elle m'avait dit après ça, elle tirait, ça a été une championne. Hein. Ça y faisait plus mal. Ça, c'est un chose qu'on pense pas, mais quand on ajuste le fusil à des femmes, il faut penser à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout si elle est bien en chair, là. C'est sûr qu'une femme qui n'a pas des gros seins, c'est pas important, mais il reste que la majorité du temps, ils ont des seins assez forts, là. Normalement, à leur place. Hein.
C'est à considérer. Puis, si on regarde l'avenir, qu'est-ce que c'est qui mériterait d'être affiné, d'être inventé par rapport aux fusils, cartouches, le tir de chasse au gibier terrestre?
Moi, je suis rendu à 81 ans, j'ai plus la même pensée, là. J'ai développé une certaine sensibilité. Mais ce qu'il faudrait penser, c'est peut-être un fusil futur qui ne serait pas des cartouches. Ça serait, comme tu m'as montré, un fusil qui tire un filet, qui embrave l'oiseau qui tombe à terre. Si on n'en a pas besoin pour le consommer, qu'on ne désire pas le consommer, on le rebat en vol, puis c'est tout, il nous a donné son plaisir.
On y met une bague.
Hein?
On y met une bague.
On y a donné son plaisir. Là. Il nous a donné notre plaisir. Puis je veux pas le manger, ben vas-y. Là. Parce que moi, j'ai toujours eu comme point d'honneur, si je tiens un gibier, il faut que je le mange.
Mm.
Si je ne le mange pas, là, ça ne vaut pas. Okay. La seule chose que je tirais, que j'ai tué, que je n'ai pas mangé, c'était des siffleux, mais c'était à la demande des fermiers. Les fermiers m'appelaient. Hey, j'ai 4 siffleux, j'ai 5 siffleux, il fallait que j'aille. Mais ça, eux autres, ça faisait les vaches, elles rentrent la patte dans le trou, hein, puis ils se cassent les pattes. Puis pour eux autres, les siffleux, c'est vraiment un problème terrible.
Ouais, ceux qui ont des potagers, ben, sont bien contents.
Ben oui, ils sauvent le potager, oui.
Ouais.
Donc, c'est ça. Mais l'animal que je suis, il fallait que je le mange. Ça, c'était fondamental pour moi. Là. D'attendre, comme l'orignal, j'ai jamais caché ça parce que c'est trop long. C'est trop de la patience. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas cette patience-là. Donc, mais le gibier futur, l'arme qu'il faudra qu'il soit développé, c'est une arme qui d'abord, qui ne serait pas dangereuse pour les humains, hein, qui notre taux de mortalité par les armes diminuerait. Puis on n'aurait pas vraiment besoin de ça. Là. Si on développait des choses là, comme le patente que tu promets dans ton article, le filet, là, ça, je trouverais ça, ça serait merveilleux. Ça.
Ouais, ouais, ouais.
C'est à développer. Là. J'aurais toujours pensé à une espèce de fusil qui avait un petit rayon laser qui les endormirait un peu, puis après ça, ils se réveillent et ils repartent. Ça, ce serait bien le fun.
Oui, effectivement.
Ben, merci beaucoup, bébé.
Tu as répondu à tout ce qu'il te faut.
Oh, oui.
Merci beaucoup, Gabi.